Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Livre de Romains, au chapitre 4, au verset 13. Alors, aujourd'hui, pendant la semaine, je me suis demandé pourquoi le Seigneur nous avait emmené dans le message de la semaine dernière la force de la confiance. Vous vous rappelez, avoir confiance en Dieu. Et j'ai mieux compris après pourquoi le Saint-Esprit m'avait emmené dans ce message. Et le message qu'on va avoir, je crois, que l'on va rester dessus pendant un bon moment, à mon avis jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il est trop important. Et je nous demande, non seulement pendant les semaines, aujourd'hui et pendant toutes les semaines que l'on va avoir sur ce sujet-là, d'être attentionné par rapport à ce qu'on va partager ensemble. Dieu va nous conduire, Dieu va nous inspirer. Et je demande à ceux qu'on ait ce message-là en CD pour aller réécouter à la maison. Amen. Voilà, je demande vraiment ça. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, je vous dis souvent que l'année, c'est comme un voyage avec le Saint-Esprit. Chaque saison dans l'année, il nous emmène série, message après message. Et en fait, les messages que l'on donne, on ne les donne pas en désordre. Toutes les paroles que l'on donne, toutes les paroles que Dieu nous inspire à l'Église, il les fait pour un but. Là, nous avons passé combien de temps? 5 ou 6 semaines sur la maturité spirituelle. Vous vous rappelez? Catartizo, dis avec moi catartizo. Qui veut dire la transformation pour ceux qui viennent pour la première fois. Et le Seigneur veut que l'on atteigne la maturité spirituelle. La question c'est, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu a quelque chose pour nous. Et là, on va rentrer dans un sujet qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est le sujet de la Bible. C'était le sujet de l'apôtre Paul. Et le thème de la série est intitulé « Hériter de la promesse par la foi ». Dis avec moi « héritier ». De la promesse. Héritier, pas hérité. Héritier de la promesse par la foi. Et le thème du jour est intitulé « Ton héritage ». Dis avec moi « Ton héritage est disponible ». Prends-le. Ton héritage est disponible. Prends-le. Et tu vas mieux comprendre pourquoi le Seigneur nous a donné cette parole. Romains 4, au verset 13, nous dit ceci. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Dis avec moi la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers, dis avec moi les héritiers, le sont par la foi pour que ce soit par grâce, dis avec moi grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole, parce que tu l'inspires au nom de Jésus. Amen. héritier. Dis d'accord avec moi, je suis héritier. La Bible ne nous appelle pas chrétiens. Quand tu ouvres ta Bible, pourquoi la Bible est un livre si particulier et un livre qui est incompris par beaucoup de gens? Parce que la Bible ne parle que d'une chose, d'un royaume. Dis avec moi un royaume. Et Dieu nous est présenté non seulement par celui qui a créé les cieux et la terre, mais Dieu nous est aussi présenté comme un roi. Dis avec moi un roi. Dieu est roi. Je vais prendre le temps d'aller doucement. Parce que je veux qu'on comprenne ça. Parce que ce que Dieu m'a fait comprendre là-dedans, je veux que nous tous on comprenne ça. Parce que je t'assure que ce sujet, si tu le comprends, si tu perçois la révélation qu'il y a dans cette parole-là, quand on te parle d'héritier, ta vie est transformée. Dieu est présenté comme un roi. Et nous, ses enfants, appelés l'Église, nous ne sommes pas présentés comme des chrétiens. Le mot chrétien est un mot qui vient des païens. Ce n'est pas un mot qui est sorti de la bouche ni de Jésus, ni de ses apôtres. Le mot chrétien est un mot que les païens à Antioche ont utilisé quand ils voyaient les disciples de Jésus-Christ. Et lorsque Pierre a demandé qu'est-ce que ça veut dire, on lui a dit, ça veut dire disciple de Christ. Il a dit, écoute, tant mieux, il n'y a pas de problème avec ce nom puisque c'est ce qu'on est vraiment. C'est comme ça que le mot chrétien est resté. Mais sinon, le mot chrétien apparaît très rarement dans la Bible, je crois une ou deux fois, c'est tout. Mais nous, nous sommes présentés comme les héritiers en Christ. Pourquoi la Bible nous appelle héritiers? Pourquoi Paul, tout au long des épîtres, Paul ne parle que d'une seule chose? Christ et l'héritage que nous avons en Christ. Pourquoi la Bible nous appelle héritiers? Parce que tout simplement, nous avons un héritage. Amen. Nous avons un héritage. Qu'est-ce qu'un héritage? Un héritage, c'est un legs, quelque chose que quelqu'un lègue à une autre personne, une vertu ou bien des propriétés qu'on lègue à quelqu'un. D'accord? Et si Dieu est roi, alors nous sommes héritiers de son héritage, d'un héritage qu'il a mis à notre disposition. Donc, quand moi je te regarde, quand Dieu nous regarde, Dieu voit des personnes qui sont héritiers d'un héritage qu'il a mis à leur disposition. Amen. Et cet héritage-là, et c'est ça la révélation que l'on a quand on lit les écrits de Paul, cet héritage-là est disponible. Dis avec moi, il est disponible. Cet héritage est disponible. Donc toi et moi, quel que soit ton âge, si tu es en Christ Jésus, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, tu as un héritage à ta disposition. Alors, quand on regarde les écrits, quand on étudie la parole et que l'on prend connaissance de cet héritage-là dont parle Paul, et que l'on se rend compte de la valeur de cet héritage-là, et que l'on voit que l'on ne vit pas cet héritage-là sur la terre, on est frustré. Il n'y a rien de pire pour un enfant d'apprendre qu'il a un héritage qui lui est destiné et de ne pas le posséder. Il n'y a rien de pire pour ça pour un enfant. Un enfant qui découvre que son papa, avant de partir, avant de mourir, a pris soin de laisser un héritage pour lui. Et toute la vie, il vit misérablement. Et il découvre qu'un jour, il y a un héritage qui était là depuis. Il dit, quoi? Je vais te raconter une histoire. Il y avait un monsieur, un jeune garçon, qui se battait comme beaucoup. Il travaillait, tout ça. Et un jour, il a perdu son travail. Il s'est retrouvé hyper endetté. On l'a mis à la porte de chez lui. Plus de travail, plus de maison. Il se retrouve SDF. Et pour ne pas dormir à la belle étoile, il allait toujours dans un grand hôtel du centre-ville Et il se mettait dans le hall du grand hôtel, parce que dans le hall du grand hôtel, il y avait un peu de chaleur, parce qu'il avait froid la nuit. Et il dormait tout le temps dans le hall. Et comme les gardiens de l'hôtel, il avait sympathisé avec eux, les gardiens de l'hôtel ont eu compassion de lui. Donc ils le laissaient dormir là. Donc tous les soirs, à la même heure, il amenait toujours sa couchette et il dormait là. Et la journée, il partait et il mendiait. Et ça a duré comme ça des années. Tous les gens de l'hôtel le connaissaient, le monsieur. Un jour, un notaire vient se présenter à ce jeune homme-là, vient lui dire, jeune homme, nous vous cherchons depuis des années. Et on ne savait pas où vous trouver. Maintenant, on vous a trouvé. Votre père a laissé un héritage pour vous. Est-ce que vous le savez? Il dit, ah bon, je suis pauvre, SDF, moins que rien. Non, votre père a laissé un héritage financier et immobilier. Le gars, il dit, ah bon, quoi? Et l'hôtel où tu dors depuis des années là, c'est ton hôtel. Yes. Donc, le gars, il est méprisé, il dort dans l'hôtel, alors que l'hôtel lui appartient. Et il ne le sait pas. Vous voyez un peu comment c'est grave? Mais, eh bien, c'est exactement la même chose pour nous, chrétiens. Nous vivons sur la terre alors que Dieu a mis à notre disposition tout un tas de choses, de bienfaits, et on n'en jouit pas. Notre héritage, oui, certes, il est spirituel, mais il n'est pas que spirituel, notre héritage. Il n'est pas que spirituel, hein, je vous assure. Hein. Dis avec moi, héritier. Le passage que nous venons de lire ici nous parle d'un personnage très important que l'on appelle Abraham, d'accord? Et Abraham est quelqu'un de très particulier. Pourquoi? Parce qu'Abraham est présenté comme le père de la foi. Pourquoi Abraham est présenté comme le père de la foi? Parce qu'Abraham est le premier à avoir cru. Cru en quoi? Ça, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Abraham est appelé père de la foi. Parce qu'il avait cru. Mais cru en quoi? Abraham a cru en quoi? Abraham a cru en Dieu. Abraham n'a pas simplement cru en Dieu. Abraham a eu une révélation de qui il était et de qui était Dieu. Et il a eu aussi une révélation de l'héritage que Dieu lui avait donné. C'est ça qui a fait qu'il a cru. Quand Abraham était sur la montagne avec Isaac, prêt à le sacrifier, et que Dieu a dit, non Abraham, laisse le couteau, voici la brebis, immole-la et ne tue pas ton fils. La Bible nous cache un passage, un événement à ce moment-là. La Bible nous cache à ce moment-là l'événement où Abraham a eu les yeux ouverts sur le ciel et il a vu. Parce que c'est ce que l'auteur des Hébreux nous dit, qu'Abraham a vu. Et c'est ça qui a créé en lui l'espérance. Mais la Bible ne te décrit pas ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le royaume et il a vu Christ venir sur terre. C'est ça qu'il a vu. Pareil, Ésaïe, le prophète. Quand Ésaïe dit, voici, je vis, la Vierge deviendra enceinte. Et elle mettra au monde un fils, un enfant. On l'appellera conseiller, admirable, etc. Tu penses qu'il voyait qui? Il voyait Dieu. Et après, quand il dit, sur ses épaules reposera le gouvernement. En anglais, on dit, the kingdom, the dominion, mamlaka. C'est ça qu'ils ont vu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu, réjouissez-vous. Parce que les gens d'avant, les prophètes et les rois, ont rêvé de vivre le jour que vous vivez aujourd'hui, entendre ce que vous entendez et voir ce que vous voyez. Il y en a, ils ont rêvé de ça. Donc, Jean-Baptiste, Abraham, David, tout ça, la Bible les présente comme des gens qui sont grands. Mais Jésus-Christ précise, ils ne sont pas plus grands que le plus petit dans le royaume. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste, David, Abraham. Vous savez pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ dit ça? Parce que dans le royaume, nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des fils. Dis avec moi, je suis un fils. Abraham, David, Moïse sont des gens qui sont présentés dans la Bible comme des fils, des serviteurs plutôt. Mais le serviteur n'est pas plus grand que le fils. Tu peux avoir une ménagère à la maison de 50 ans, elle n'aura jamais plus de valeur que ta fille de 4 ans. Jamais. La ménagère peut même rester là 100 ans dans la maison, elle n'aura jamais l'héritage dans la maison. L'héritage viendra toujours à l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux raisons qui rendaient Abraham très particulier aux yeux de Dieu. La première, c'est que Abraham avait accepté son statut de fils. Depuis le jour où il avait compris qui il était, il avait accepté son identité de fils. C'est ça qui a fait que Dieu l'a rendu juste par la foi. Quand Dieu lui a dit que le royaume des cieux est à toi, il a accepté. Mais il a compris que sur la terre, il ne pourrait jamais vivre le royaume-là. Il fallait qu'il meure pour aller au ciel. Mais ce qu'Abraham a vu, c'est que sa postérité, ses descendants allaient vivre le royaume sur la terre. Et ses descendants, c'est qui? La postérité, c'est qui? Quand il dit ici, dans le verset, je ne sais plus quel verset, si, le verset 15, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. » C'est qui la postérité? La postérité, c'est toi et moi. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et si nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes héritiers. Dis avec moi, je suis héritier. La deuxième chose qui caractérise Abraham, c'est qu'il a eu la foi en Dieu, que l'héritage du royaume lui appartenait. Quand tu ouvres ta Bible et que la Bible te parle d'un héritage, tu dois être convaincu que, Seigneur, l'héritage dont on parle là, c'est pour moi. Quand on parle d'héritage, le fils ne fait pas d'effort. Le fils, il hérite, c'est tout. Le serviteur, il travaille. Le fils, il ne travaille pas. Le serviteur peut travailler pendant des années pour gagner 100 000 ou 500 000 francs. Le fils, il entre dans la chambre de papa et puis il dit, papa, j'ai besoin de 500 000 francs. Et le père lui donne. Où est-ce que je veux dire? Donc, il y a des grâces et des bénédictions dont tu n'as pas besoin de forcer. Elles sont à toi. C'est ça maintenant, c'est là où la foi entre en jeu maintenant. C'est qu'il y a des choses, quand on prie, il y a même des choses, tu n'as même pas besoin de prier. Je t'assure, il y a certaines choses que je commence à comprendre, je ne prie même plus pour ça. Parce que quand tu es fils, tu ne pries plus pour certaines choses. Tu les acceptes et tout. Par exemple, je te prends un exemple simple. Dans le panier de ton héritage, il y a une promesse que l'on appelle la guérison. Est-ce que tu sais que la guérison, on ne prie pas pour la guérison. On est guéri. On rend grâce à Dieu pour la guérison et on accepte la guérison. C'est pour cela que le jour où tu vas à l'hôpital et qu'on te diagnostique un cancer, par exemple, le docteur te montre la radio. Il dit bien, regardez le scanner, madame, vous avez un cancer. Tu le regardes, tu dis, ça c'est votre diagnostic, monsieur. Mais le pronostic vient du médecin, le médecin qui dit que je suis guéri. Non, madame, le pronostic, c'est que vous allez mourir si vous ne vous soignez pas rapidement. Non, il n'y a pas de problème, je vais prendre vos médicaments si vous voulez, mais je suis guéri. Et si il persiste, tu lui poses la question, monsieur, est-ce que le corps de Jésus peut être malade, peut avoir le cancer? Vous connaissez le corps de Jésus? Écoutez, madame, monsieur, je sais que vous êtes très croyant, tout ça. Non, monsieur, je ne suis pas juste très croyant, je suis fils du royaume. Et dans le royaume, le cancer est à terre et en bas, sous nos pieds. Monsieur, vous avez le cancer? Non, je n'ai pas le cancer. Et là, je ne vais pas prier, oh Seigneur, merci parce que tu m'as guéri, Seigneur. Oh Seigneur, avec les larmes et tout, Seigneur. Là tu n'es pas en train de, tu n'es pas en train de prier, tu es en train de te persuader que... Non, la foi veut que tu sois dans la paix et tu prends le médicament. Si le médecin te donne le médicament, tu prends le médicament, il n'y a pas de problème. Mais la foi veut que tu te lèves et tu avances, tu marches, tu vis normalement, tu es dans la paix. Et tu dis, Seigneur, ma foi me dit que dans mon héritage, le cancer là. Et d'ailleurs, ta parole... dit. Parce que Ésaïe 1, verset 18 dit, viens et plaidons. Donc tu prends la parole, viens, on va plaider, non. Tu dis, 2 Corinthiens 5, verset 17, je suis ambassadeur de Christ sur la terre. Si je suis ambassadeur détaché sur la terre, alors c'est que tu as besoin de moi. 1 Corinthiens 6, verset 19, dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, alors je ne veux pas être malade. Tu as besoin de mon corps, Seigneur. Rappelez-vous le secret de la réussite de Jésus. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu a besoin de mon corps pour opérer sur la terre, mais tu dois me guérir. Et si tu ne me guéris pas, il n'y a pas de problème. Moi, je meurs et puis je retourne au ciel. Mais si tu veux que je reste sur la terre, Seigneur, merci pour la guérison. Mon épouse et moi, on a connu une femme en France, une Française, qui a été guérie miraculeusement d'un cancer avancé. Tu te rappelles, non? Elle a été diagnostiquée d'un cancer, et quand elle te raconte le témoignage, c'est fort. C'est-à-dire, tout le monde pensait qu'elle serait sur le lit, c'est elle qui faisait chambre par chambre pour aller consoler les gens autour de l'eau, alors que c'est elle qui avait le cancer. Elle est restée plusieurs semaines à l'hôpital en observation et du jour au lendemain, les médecins ont vu que le cancer avait disparu. On ne sait pas comment elle avait fait. Mais cette femme-là, je vous assure, c'est une femme de prière, une femme de foi. Et quand elle vous raconte son histoire, elle dit, quand le médecin lui disait, vous avez un cancer, elle disait, je n'ai pas le cancer, monsieur. Je suis en très bonne santé. Madame, vous avez un cancer? Non. Et quand elle marchait dans les couloirs, elle disait, madame, allez vous coucher, vous êtes, je ne suis pas malade, je n'ai pas de cancer, je reste ici parce que le médecin m'a dit de rester, mais je ne suis pas malade. Et vous allez voir qu'avant que je sorte d'ici, le cancer va disparaître. Et le cancer avait disparu. C'est véridique ce que je vous raconte là. Et ça, ce sont des choses aujourd'hui qu'on a du mal à croire. On a du mal à croire. Pourquoi? Parce que on est tellement maintenant attaché aux choses naturelles que le surnaturel est devenu quelque chose de... On a peur de ça, on n'y croit plus, on est incrédule. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui marche dans le naturel, mais qui opère dans le surnaturel. Le surnaturel t'accompagne partout où tu vas. C'est pour ça que David a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de moi et m'arrache à tout danger. Quand tu marches dans la rue le soir, quand tu rentres là, il y a un ange à côté de toi. Ça sont des réalités spirituelles. Et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est d'opérer dedans. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'ils sont prêts à entendre ça? Le Seigneur me dit, hé, dis-leur ça. Ils sont fils, non? Tu penses qu'on attend que le fils du roi ait 18 ans pour commencer à lui dire qu'il est fils du roi? Dès l'âge de 0-1, on lui dit, tu es fils du roi. Essaie un jour d'aller rencontrer un peu un fils de roi ou de quelqu'un de très important. Tu vas voir que lui, il n'a pas la même mentalité que toi. Tu penses que le prince William en Angleterre, il traîne avec les gars du quartier? Le prince William, même quand il se tient debout, il y a une manière de se tenir debout. Même quand il parle, il y a une manière de parler. Sa manière de s'habiller, sa manière de serrer la main, tout est calculé parce qu'il est appelé à être roi. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Pourquoi? Parce que le monde nous enseigne. Le prince William d'Angleterre, lorsqu'il est venu au monde, la première chose qu'on a fait, il a embrassé sa maman, il a embrassé son papa, et tout de suite, on lui a mis des personnes qu'on appelle des tuteurs royaux. Les tuteurs royaux, le tuteur royal, c'est une personne qui est là en permanence avec l'enfant pour lui apprendre les manières que tout jeune prince doit avoir. Tu ne verras jamais un prince seul. Il est toujours avec quelqu'un. Un garde du corps est toujours avec quelqu'un qui l'accompagne, qui lui dit, bon voilà monsieur, il lui dit, alors lui c'est qui? Quand il va à une soirée, il est toujours avec lui et ce monsieur-là est toujours en train de lui dire, alors lui c'est l'ambassadeur de tel, lui c'est telle personne, lui quand vous lui parlez, il faut lui rappeler ça, lui c'est ça. Et cette personne accompagne toujours l'enfant. Et il le prépare au trône. C'est pas le père qui prépare son fils au trône, c'est le tuteur royal qui prépare le fils au trône. Et nous aussi, quand nous venons au monde spirituellement, quand nous donnons notre vie à Jésus, le Seigneur, la première chose qu'il fait, il met à notre disposition le tuteur royal appelé le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est son rôle. Il est là pour nous préparer à prendre possession de l'héritage. Et c'est pour cela que Paul nous dit, vous devez renouveler votre intelligence. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Parce que tout simplement, dès que tu arrives dans le royaume, le Seigneur doit t'apprendre à penser, à raisonner comme un roi. Un roi, par exemple, ne se plaint pas. Oh, j'ai pas d'argent. Le roi ne se plaint pas, l'argent est à sa disposition. Oh, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Dieu dit, rends grâce. Jésus-Christ leur dit, oh Seigneur, renvoie les gens. On n'a pas de quoi leur donner à manger. Mais nourrissez-les vous-même. Seigneur, nous n'avons rien, qu'avez-vous? Juste deux pains et deux poissons, ben, c'est suffisant. Il rendit grâce. Boum, le miracle arriva. Amen. Accepter son statut de fils et croire. L'héritier est celui qui n'a pas besoin de faire d'efforts pour posséder l'héritage. Il est héritier non par condition, mais par position. C'est pour cela que quand tu pries, quand tu élèves la voix, tu pries selon ta position de fils. Donc il y a des choses, quand tu les déclares avec ta bouche, tu sais qu'elles vont s'accomplir. Parce qu'un fils, quand il dit quelque chose, il sait que papa va faire. Regarde, je vais te donner encore une autre image. Qui m'a enseigné, c'est ma fille. Ma fille aujourd'hui a 5 ans. Et ma fille, quand elle, ça faisait quelques mois qu'elle était née, j'avais souvent l'habitude de la prendre et puis je lui faisais ça. Je la jetais un peu dans l'air et puis je la reprenais. Tu sais ce qu'elle faisait? Elle ne pleurait pas, elle riait. Tu sais pourquoi elle rit? Parce qu'elle sait que papa ne peut pas la laisser tomber. Papa ne peut pas la laisser tomber. Elle rigole, elle me regarde, elle rigole encore. Plus je la jette, au plus elle rigole. Alors que c'est dangereux ce que je fais. Mais elle sait que papa ne peut pas la laisser tomber. Eh bien, c'est pareil quand tu traverses une situation difficile. Tu dois rire. Parce que tu sais que Dieu ne peut pas te laisser. Amen. Donc, par notre position de fils, nous avons accès à cette chose-là que l'on appelle l'héritage. Et on va aller doucement, plus loin. Et on va petit à petit comprendre de quel héritage il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a dans cet héritage-là? Héritier de la promesse. Galates 3, au verset 26. Prenons nos Bibles. Galates 3, au verset 26 à 29, nous dit ceci. Galates 3, au verset 26. Il est écrit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Dis avec moi, je suis fils. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Dis avec moi, héritier. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes héritier selon la promesse. Et ce que Paul est en train de dire ici, là, ce n'est pas une promesse à venir. C'est quelque chose, c'est un fait établi et accompli. Depuis le jour où Jésus-Christ est ressuscité, la Bible nous dit dans Éphésiens qu'il nous a ressuscités avec lui et nous sommes héritiers avec lui, co-héritiers. Donc l'héritage est à nous. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent leur véritable identité. S'il y a bien une crise qu'il y a dans l'Église, c'est une crise identitaire. Nous avons des églises qui sont remplies de centaines de milliers de gens, mais les gens ne savent pas qui ils sont. Quand on regarde la vie de beaucoup de chrétiens, on voit qu'il n'y a aucune différence avec la vie des païens. On voit le péché dans l'Église, on voit des chrétiens qui ont des luttes bêtes, inutiles, des luttes charnelles. Je peux comprendre encore quelqu'un qui vient de naître de nouveau et qui a des luttes au-dedans de lui avec la convoitise, etc. Mais tu vois des gens qui sont dans le Seigneur depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais qui ont toujours les mêmes luttes. Des gens qui luttent pour prier, des gens qui luttent pour marcher dans la sainteté, des gens qui luttent pour marcher dans l'intégrité, des gens qui luttent avec le mensonge, des gens qui luttent avec l'amour. Tu vois des chrétiens qui sont censés avoir le caractère de Christ, refléter le caractère de Christ, mais dès qu'ils se mettent à parler avec les païens, tu ne le reconnais plus. Pas tout là, et puis quoi encore hein? Tu es chrétien toi, tu vas à l'église tous les jours. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de parler avec une dame, mais quand j'ai vu comment elle a parlé, Et puis on me dit, elle prie. Elle va à l'église. Je dis, oh, elle va à l'église, la femme là. Ça, c'est grave. Moi, en face de moi, j'avais quelqu'un qui n'est pas du tout converti. J'avais quelqu'un qui va à l'église pour suivre les autres, mais il n'est pas converti. Il n'a pas rencontré le Seigneur Jésus. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur Jésus ne peut pas avoir des comportements comme ça. Ce n'est pas possible. Et tu vois les chrétiens, non seulement qui ignorent qui ils sont, mais qui galèrent. Je vous assure, il y en a qui galèrent, pas parce que leur situation les amène à galérer. Il y en a qui galèrent parce que spirituellement, ils n'ont pas activé le surnaturel dans leur vie. Par exemple, quand on parle des choses simples comme la prière, mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui prie, gay. Quelqu'un qui est en crise, qui ne prie pas. Mais il y a un souci. Les jours passent, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est là que tu viens prier quand tout le monde élève la voix à l'église. Toute la semaine, tu n'as même pas élevé la voix une seule fois. Et après, quand le malheur arrive, bam! Tu dis, oh Seigneur, pourquoi? Mais tu n'as pas prié. Le meilleur exemple dans la Bible, c'est Job. Ses enfants sont morts, sa maison a été détruite. Job ne priait pas. C'est pour ça que dans Job chapitre 38, Dieu lui dit, mais Job, as-tu commandé au matin? C'est qui obscurcit mes desseins avec ces discours sans intelligence là? Job 38. Vous savez ce que Dieu est en train de lui dire? Dieu est en train de lui dire, mais tu ne pries pas Job. Quand les événements arrivent, au lieu de te lever dans la prière et prier, toi tu te plains. Donc moi je ne peux rien faire pour toi. Tu es un roi sur la terre, tu as coordonné, c'est tout. Les anges... Attends, tu sais, s'il y a bien un chrétien avec qui les anges s'ennuient le plus, c'est le chrétien qui ne prie pas. Hein. Tu sais, les anges de la catégorie de l'ange Michael, là, c'est des anges de combat. Tu sais, parfois, il y a les prières d'action de grâce, des prières de supplication, mais il y a aussi les prières de combat. Parfois aussi, il faut prier avec, au nom de Jésus. Je possède Akanda au nom de Jésus. Tous les fois. faut prier. Je déclare au nom de Jésus-Christ que telle personne vient au Seigneur. Tout plan, toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute arme forgée contre ma famille est sans effet. Aucun des membres de ma famille ne quitte la terre sans avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il faut prier. Cette situation qui se présente à moi, au nom de Jésus. Vous vous rappelez l'histoire que je vous avais racontée de la personne qui me devait de l'argent, qui me devait beaucoup d'argent, au point où ça nous a miné dans la maison avec ma femme, cette histoire d'argent-là. Et un jour, ma femme a dit non, on va prier. Là, on va prier. Pendant 3 jours, on s'est levé la nuit, de 3h à 6h du matin, on a prié. Et là, quand on prie, là, les prières de combat, ce n'est pas les prières de jour, hein, c'est les prières de la nuit. Mais oh, tu sais, quand on part en combat, on part la nuit. Des commandos, tout ça, c'est la nuit, non? Quand on fait des opérations commando, tout ça, c'est la nuit. On met les peintures, tout ça, là, et puis la nuit. C'est ça le combat spirituel. Donc nous aussi, on se blinde aussi, et puis on part dans le combat spirituel, la nuit. Et puis quand on parle dans les prières comme ça, on cite les noms. Seigneur, telle personne au nom de Jésus, que son cœur s'incline en notre faveur, elle ne trouve pas la paix ni le sommeil. Je déclare au nom de Jésus qu'elle ne dort pas. Tant que le monde de cela n'est pas réglé, il me rend mon argent. Et voilà, ma femme, c'est pour ça que j'ai prié. Il me rend mon argent, ce monsieur. Un voleur. Et le monsieur en question, non seulement il m'a rendu mon argent, mais en plus on l'a viré. Et il est persona non grata ou... voilà, enfin ce que vous voulez. Tout ça. Ça c'est parce qu'on avait prié. On ne touche pas un fils du royaume. Hé, touche pas. C'est ce que Dieu a dit dans le livre des psaumes, ne touchez pas à mes oins. Quand quelqu'un t'embête, quand quelqu'un te cherche des prunes, des problèmes, tu sens que la personne-là, avec méchanceté, veut te faire du mal. Tu la regardes seulement dans l'amour du Seigneur. Tu dis, il n'y a pas de problème. Oh, fais-moi ça. Mais quand je vais dire ton nom dans ma chambre, Oh, il ne faut pas toucher un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu sanctifié qui prie. Il ne faut pas le toucher. Hein. C'est un adorateur. On ne touche pas un adorateur. Hein. Les gens les plus dangereux dans le royaume sont les adorateurs. Les gens qui plient les genoux. Quelqu'un qui plie les genoux, tu vas le toucher. Oh, on ne touche pas à quelqu'un qui plie les genoux. Il ne va jamais te rendre la gifle. Il va te tendre l'autre gifle. Mais par contre, dans le spirituel, il va te gifler. Non, ce n'est pas lui qui va te gifler, c'est Dieu qui va te gifler. On ne touche pas un fils du royaume. C'est pour ça que c'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi Dieu n'a jamais frappé David, malgré tous les grands péchés que David a fait. David a tué, il a menti, il a fait le dénombrement. Dieu a préféré tuer 20 000 personnes en une journée que de tuer David. Pourtant, il était coupable. Parce que tout simplement, c'était un adorateur. Et Dieu a préféré le laisser vivre des longs jours que de le tuer. Amen. On avance. Donc, si nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham, il y a un héritage qui est à nous. La promesse est aussi à notre disposition. De quelle promesse il s'agit ici? La promesse. Eh bien, cette promesse, c'est cet héritage-là. Et cet héritage-là, c'est ce que Jésus-Christ est venu nous révéler. C'est pour ça que le message de Jésus est un message fort. C'est un message qui parlait aux gens. Parce que Jésus-Christ venait dire aux gens qui ils étaient et ce que Dieu leur avait donné. Et là, en étudiant ça, j'apprends un principe qui est que si tu ne sais pas à quoi ressemble ton héritage, tu ne peux pas le posséder. Si tu ne sais pas quel est ton héritage, tu ne peux pas le posséder, tu ne peux pas l'avoir. Si tu ne sais pas que dans ton héritage, il y a quelque chose qu'on appelle la guérison, mais tu ne peux pas expérimenter la guérison. Si tu ne sais pas que dans ton héritage, il y a quelque chose qu'on appelle la prospérité financière. Regarde, la prospérité financière, tiens, parle un peu d'argent. Le jour où j'ai compris que dans mon héritage spirituel en Jésus-Christ, il y a quelque chose qu'on appelle, une promesse que l'on appelle la prospérité financière. Le jour où j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, je refuse la pauvreté dans ma vie. Je ne serai peut-être pas immensément riche. Si je suis immensément riche, gloire à toi, Seigneur. Mais une chose est sûre, je ne serai pas dans le manque. C'est pour cela que dès que je vis une situation de manque financier, je suis très préoccupé. Parce que je dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai quoi? J'ai péché, j'ai fait quoi? J'ai manqué de sagesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je ne suis pas censé vivre le manque. Je suis fils d'un roi. Hey, tu as déjà vu un roi qui manque d'argent? Imagine un gars qui te dit, il est roi, il est fauché. Il n'a pas d'argent. Un fils de roi n'est jamais fauché. Dès qu'il finit de manger au restaurant, il tend seulement la main comme ça. Là. Et puis le majordome ouvre la mallette et puis il prend seulement l'argent, il paye. Donc, si aujourd'hui financièrement, tu ne vois pas la prospérité dans ta vie, alors c'est qu'il y a une clé que l'on appelle la sagesse qui te manque. Il faut que tu ailles étudier ça pour décoller financièrement. Parce qu'il y a des domaines, par exemple, tels que la finance, tels que l'argent, où on expérimente la prospérité financière avec la sagesse. Quand tu vois quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, honnêtement, je précise bien, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, quelqu'un qui a construit des choses et qui a fait asseoir ses finances, c'est parce que c'est quelqu'un qui a acquis une sagesse dans la gestion financière. Et ça, peut-être il te manque ça. C'est ce qu'on appelle l'intelligence financière. Amen. Donc si tu ne sais pas quel est ton héritage, tu ne peux pas le posséder. Jésus-Christ a dit dans Jean 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Quand il dit libre, ce n'est pas libre d'une prison physique, c'est libre d'une prison mentale. Quand tu as compris, tu n'as pas vu, quand tu as... Regarde. Si tu as déjà expérimenté un jour ce qu'on appelle la révélation, tu as dû avoir une réaction. Moi, en général, quand j'ai une révélation, je fais « Oh !» comme ça. Mais j'ai compris. Et je souris. Je suis là, je danse, je dis « Hey, ça c'est fort, ça. J'ai compris. » Et le jour où j'ai commencé à comprendre ça, j'étais content. Tu sais, parfois, moi, quand je suis là devant mon ordinateur et puis j'écris, je prépare le culte, et parfois, poum, j'ai la lumière sur un verset, je fais « Ah !» Ça, c'est fort, ça. Tu n'as pas vu parfois quand le pasteur est en train de prêcher et puis quelqu'un est assis sur sa chaise et puis quand le pasteur dit quelque chose, tu entends quelqu'un qui fait « Hey !» Oh! C'est ce qu'il a reçu quelque chose. Il a reçu, il ne faut pas l'en vouloir. Lui, il réagit comme ça. Tu sais, il y en a, ils sont très extravagants. Hein? J'ai connu quelqu'un dans une église. Lui, tout le temps, c'était « Hey !» quand il recevait quelque chose. Et ça dérangeait les gens. Mais on disait, mais laissez-le. Lui, il reçoit quelque chose. Au moins, lui, il exprime. Vous, vous êtes toujours fermés là, de vos vestes et vos costumes, frustrés comme vous êtes là. Hein? Malheureusement, les gens n'ont pas compris l'héritage. Et ce que Dieu nous demande, c'est notre responsabilité. C'est de chercher dans la communion du Saint-Esprit à connaître la valeur de cet héritage-là. Parce que c'est dans la communion avec le Saint-Esprit, tous les jours, que Dieu nous enseigne sur notre identité de fils et sur notre héritage et comment nous devons le posséder. C'est cela la maturité spirituelle. La maturité spirituelle te permet d'entrer en possession de l'héritage. Si tu prends un billet de 10 000 francs et que tu mets ça entre les mains d'un enfant de 3 ans, il va le déchirer. Il va le jeter par terre, il va même s'essuyer le visage avec. Et après, quand il sera fatigué, il va jeter le billet parce qu'il n'en connaît pas la valeur. De même, le niveau, la révélation dans ta vie de la parole dépend de ta capacité à recevoir. Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir certaines révélations de Dieu parce qu'ils ne sont pas assez larges. Si je commence à prendre ma fille de 5 ans et puis je dis, chérie, viens ici. Alors, tu connais le théorème de Pythagore? Tu connais 3 fois 3 fois 10? Tu connais? Elle va te regarder comme ça, elle va dire, tu es fou. Hein? Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ, vous ne rappelez pas ce passage dans le livre de Jean, où il dit, mais si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment pourrais-je vous parler des choses célestes? Jean 3, il parlait à Nicodème. Nicodème vient le voir et puis il dit à Nicodème, tout à l'heure on va y revenir, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème dit, donc il faut quoi? Retenir dans le ventre de sa maman, hein? Jésus le regarde, Jésus-Christ dit, toi tu enseignes à Israël et puis tu comprends pas les choses là? Nicodème, tu enseignes tous les jours ici les petites choses comme ça, faciles comme ça. Ça c'est le CP1 ça, dans le royaume. Et Nicodème le regardait comme ça et dit, ah non, je ne comprends pas Seigneur. Mais si je te parle des choses terrestres comme ça, tu ne comprends pas. Mais les choses célestes, quand je vais commencer à te parler de la réalité des anges, du monde angélique, des combats spirituels qui se mènent dans les cieux, si je te parle de tout ça, tu ne comprendras pas. C'est pour ça qu'il y en a quand on prêche la parole, tu prêches, et puis j'entends la voix du Saint-Esprit qui te dit, ben c'est un peu le niveau là, il ne comprend pas. il suffit pas là. Parce que là, c'est trop deep, c'est trop fort. Baisse le niveau. Il y a des gens comme ça. Tu es obligé de leur expliquer. C'est comme par exemple le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand on demande, quand tu expliques ça à des gens, ils ne comprennent pas. Tu es obligé de leur dire, bon, alors tu sais, le Père, c'est de l'eau dans un verre, d'accord? Et puis l'eau, tu sais, quand tu mets dans le frigo, ça devient un glaçon. Ça, c'est le Fils que tu peux toucher. Ensuite, l'eau, quand tu mets dans une marmite, ça boue. Et ensuite, ça devient de la vapeur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais la vapeur peut retourner à l'état de liquide, etc. Il y a 3 différentes manières de se manifester. L'eau, la vapeur, le glaçon. Mais tout ça, c'est la même source. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les 3 sont un. Et là, ils te regardent. Ah non, c'est ça la Trinité, hein? Laisse tomber. Quel est cet héritage? Le plus bel héritage qu'un père puisse donner à son enfant, ce sont ses possessions. Dis avec moi les possessions. Le plus bel héritage qu'un papa puisse donner à son enfant, ce sont ses possessions financières, immobilier, matériel, tout ce que tu veux. Et même spirituelles, des vertus, des standards, des habitudes, des coutumes. Et quand le père dans la Bible est appelé le roi des rois, eh bien, quel héritage peut-il donner de mieux à son enfant si ce n'est son royaume? Quand un roi veut léguer son héritage à son fils, le prince, il ne dit pas, bon, mon fils, le prince, toi, tu prends le château qui est là, mais sinon, tout le reste, ce n'est pas à toi. Non, il lui donne tout le royaume. Et dans le royaume, il y a les possessions. Vous me suivez? C'est pour cela que Jésus-Christ dit dans Luc 12, 32, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains point petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Jésus-Christ ne parlait que de ça, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Paul est venu, il a parlé du royaume, il a parlé du royaume, du royaume, du royaume. Pierre a parlé du royaume, les apôtres ont parlé du royaume. John Knox a parlé du royaume en Angleterre. John Wesley a parlé du royaume. Et c'est sûr que tu ne les connais pas. Des grands évangélistes. Renard Bonquet a parlé du royaume. Docteur Miles Monroe a parlé du royaume. Puis Condias parlera du royaume. Parce que notre héritage, c'est le royaume. Et c'est tellement vaste, il faut l'enseigner. Le royaume est notre héritage, et dans ce royaume, il y a tout ce dont nous avons besoin. La richesse, la force, la sagesse, l'épanouissement personnel, la paix, la joie, le bonheur, la prospérité, la guérison, la victoire, l'impact, la puissance, l'autorité, la domination, tout est dans le royaume. Tout ce que je viens de citer là, le pouvoir. Est-ce que tu sais que tu as un pouvoir entre tes mains? Tu sais ça?
Amen.
Le jour où tu as la grâce de rencontrer une personnalité du pays, même le président de la République, le jour où tu vas le rencontrer, tu vas le respecter par rapport à sa fonction parce qu'il est le chef de la nation, n'est-ce pas? Mais toi aussi tu as un pouvoir, hein? Tu es quelqu'un. Hey. Lui il est président de la République, toi tu es fils du roi. Lui, on l'a voté. Toi, on ne t'a pas voté. Toi, tu es roi parce que tu es fils. Bon, il faut faire preuve de sagesse quand tu vas te trouver devant les gens. Quand même. Mais sinon, tu es roi. C'est pour cela que moi, à chaque fois que je me tiens devant les autorités du pays, je suis tranquille. Une fois, j'étais dans une salle d'attente. Et puis, il y a quelqu'un qui vient à la salle, et puis quand la personne vient dans la salle, tout le monde bondit de sa chaise et tout le monde saute. Bonjour monsieur le directeur de la société. Et moi je suis resté assis parce que je ne me suis pas levé. C'est pas que j'ai fait exprès de ne pas me lever, c'est que je ne connaissais pas le monsieur. Je suis resté assis, je dis, oh mais qu'est-ce qu'il arrive, pourquoi ils se lèvent tous comme ça? Et puis tous, quand ils le saluaient, c'était comme ça, monsieur, c'est presque s'il se prosternait. Donc, quand il arrive à mon niveau, il me regarde. Je le regarde. J'ai dit bonjour, mes respects. Mes respects, parce qu'apparemment, tu es quelqu'un de très important. Et il me tend la main, je le salue, mais je reste assis. Et plusieurs jours après, quelqu'un m'a dit, oh, mais c'est telle personne. J'ai dit, ah, oh, Jésus. Ah, ben là, j'ai déconné quand même. Non, mais j'ai pas eu de problème après. Mais c'est parce que je sais qui je suis aussi. C'est pas un signe d'irrespect. Bon, la seconde fois, je me suis quand même levé, je vous avoue. Je me suis quand même levé. Par respect quand même. Mais quand tu te tiens devant les gens, peut-être que quelqu'un a un pouvoir. Si quelqu'un a une arme, un bâton ou même de l'argent, tout ça lui donne un pouvoir. Mais toi, tu as un pouvoir qui est plus puissant que ça, c'est le pouvoir, un pouvoir spirituel. Tu as un pouvoir spirituel entre tes mains. C'est pour cela que tu peux te trouver devant quelqu'un qui est malade et tu lui imposes les mains. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que ça. C'est pour cela que Jésus-Christ dit dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. » Tu sais ce qu'est chasser un démon? Et 5 jours de chasser un démon devant des païens, tu vois comment ils vont réagir? Ils vont dire, « Hey, toi tu es Superman ou quoi? » Parce que ça là, c'est comment tu fais ça? Qui a déjà vu un vrai miracle? Devant lui, de ses frères, un vrai miracle, genre un aveugle qui retrouve la vue, un paralytique qui marche. C'est parce que tu n'as jamais vu ça que tu as du mal à croire quand on te raconte ces histoires-là. Moi, j'ai vu ça. Et j'ai vu des gens que je connaissais. Tu sais, quand tu as été avec quelqu'un depuis longtemps, et tu connais sa condition, tu sais qu'il est malade, tu sais qu'il est comme ça, handicapé. Et puis un jour, lors d'un événement, tu vois que, bam, comment il est guéri. Là, tu sais que c'est la vérité parce que tu as vécu depuis longtemps. Ou bien tu es là avec un aveugle et puis tu vois l'aveugle qui retrouve la vue. Un jour, il y avait un pasteur qui nous racontait une croisade que l'évangéliste Renard Bonquet avait fait en Côte d'Ivoire. Et puis à cette croisade-là, il y avait eu beaucoup de musulmans qui étaient venus. Et à la fin, les gens se levaient des chaises, les aveugles retrouvaient la vue, c'était fort. Tu sais comment les gens à la fin ont réagi, les musulmans, tu vois les musulmans qui prenaient leur chapelet, ils jetaient ça, ça c'est la vérité, ça, hé, quoi, ça c'est quelle puissance ça, qui ouvre les yeux des aveugles, c'est pas que leur religion est mauvaise ou quoi que ce soit, c'est que là ils ont vu la réalité de Dieu. Donc quand tu vois ce genre de choses là, tu ne peux que dire, Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas de plus grand Seigneur que Jésus-Christ. Amen. Et quelle que soit la maladie, l'obstacle, le joug, la difficulté, il n'y en a aucun qui peut résister au nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, ah, punaise, cette histoire de nom-là, je vais y revenir dans quelques semaines. L'histoire du nom-là, le nom que tu portes, le nom que tu portes, c'est dangereux. Le nom de Christ. Dès que tu vas remarquer qu'il y a des milieux, quand tu dis que tu es en Christ, tu déranges. Tu déranges. Parce que le nom de Christ. Une fois, j'étais en train de lire sur Internet le témoignage d'un serviteur de Dieu congolais de Kinshasa. Et ce monsieur racontait que Dieu l'avait élevé, Dieu l'avait emmené en esprit, je ne sais pas où. Dans le monde occulte, dans le monde spirituel. Et il s'est retrouvé dans une salle avec plein de gens qui étaient autour d'une table. Et autour de cette table-là, il voyait dans l'esprit que ces gens-là, ce qu'ils étaient en train de faire, c'était mauvais. Et lui, il arrive autour de la table et il y avait des noms qui étaient en train d'être cités. Et quand il était autour de la table, il a posé une question. Il a dit, est-ce que je peux poser une question? Et en fait, c'était des satanistes, les gens en question. Et il a levé la main, il a dit, est-ce que je peux poser une question? On lui a dit, pose ta question. Et la question qu'il a posée, c'était, est-ce que Jésus est d'accord? Quand il a dit Jésus, ils sont tous tombés de leur chaise. Et puis quelqu'un, celui qui était à côté de lui s'est levé et l'a regardé, il a dit, ne cite plus jamais le nom là ici. Il a dit, en tout cas, vu comment vous êtes tombés de vos chaises, c'est que le nom là, il fait peur. Une autre fois, je regardais une émission sur Canal+, pour revenir un peu dans notre époque. Et puis il y avait des artistes dans une émission. C'était il y a plusieurs années de cela, c'était le jour du décès d'un des papes. C'était du pape Jean-Paul II ou III, je ne sais plus. Jean-Paul II. Et puis, ils étaient en train de débattre par rapport à son ministère, ce qu'il avait fait, tout ça. Et puis, il y avait un artiste qui était là, qui écoutait les débats houleux, tout ça, etc. Les contradictions, etc., etc. Les reportages. Et puis, ils se sont mis à faire des comparaisons dans les différentes religions. La religion catholique, la religion musulmane, il citait toutes les religions. Et puis là, l'artiste en question, il fait, mais vous savez, c'est cool tout ce que vous dites là, mais moi, il y en a un que j'aime bien. Lui, je l'aime bien, ce gars-là. Mais pourquoi vous n'en parlez pas de lui? Lui, il est gentil, il n'embête personne, il est rempli d'amour, c'est Jésus. Pourquoi vous ne parlez jamais de Jésus? Et quand il a dit ça, il y a eu un froid glacial sur le plateau. Et l'animateur, l'émission a fait, nous allons passer à une pub, une publicité, si vous voulez. Pourquoi? Parce que le nom là, ça dérange. Le nom de Jésus. Parce qu'il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus là, c'est très dangereux. Amen. On va atterrir. Donc, la clé des clés, la clé de toutes les clés, c'est la connaissance. Dis avec moi la connaissance. La clé de toutes les clés, c'est la connaissance. Tu ne peux pas posséder un héritage que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas la valeur. Et c'est pour cela que dès que nous venons à Christ, la première chose que Dieu commence à travailler chez nous, c'est le renouvellement de notre intelligence. Un enfant de Dieu qui n'a pas la connaissance et qui ne devient pas spirituellement mature ne peut pas posséder son héritage en Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul dit dans Romains 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mais soyez transformés. Le mot transformé ici, c'est le mot grec métamorpho. D'où vient le mot français métamorphose. Métamorphose ou métamorphose. C'est ça qu'on traduit par transformer. Et notre problème, ce n'est pas le diable dans la vie. Notre problème, ce n'est pas la malédiction héréditaire, soi-disant, qui est dans notre famille. Notre problème, ce n'est pas le sorcier du quartier qui nous a mis un blocage ou qui nous a lancé un fusil nocturne. Notre problème, ce n'est pas ça. Notre problème, c'est notre ignorance. Le même passage, je vais le lire dans la version Parole vivante. La version Parole vivante est encore plus explicite. Elle dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Dis avec moi la mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une nouvelle maturité. Amen. Donc notre problème, c'est notre mentalité. Notre problème, c'est qu'on ne pense pas comme Dieu. Quand nous sommes face à une situation, au lieu de penser comme Dieu, on pense comme les gens du monde. Dès qu'il y a une situation qui arrive chez toi à la maison, un malheur, ou on t'annonce une mauvaise nouvelle, de commencer à faire « Oh, comment ça s'est arrivé ?» Non, tout de suite, là, il faut prier là. Pendant que tout le monde est en train de se plaindre, toi, tu restes calme dans la paix et tu dis « Dieu est au contrôle ». Même si on ne comprend pas toujours tout. Et pour entrer en possession de ton héritage, tu vas devoir changer ta manière de penser, ta manière de regarder la parole, ta manière de voir Dieu, ta manière de prier, de te comporter, même les relations que tu as avec les gens. Tu vas devoir tout changer. Mais l'héritage, quand je dis que l'héritage est disponible, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a des choses dans le panier de notre héritage que nous pouvons posséder, que nous pouvons jouir maintenant, si nous savons rentrer dans le spirituel et les déclarer pour les amener à l'existence. Car tel est ce que Dieu nous a donné, pour finir, tel est ce que Dieu nous a donné. Par la parole, nous pouvons amener les choses à l'existence. Parce que la parole est créatrice. Tout comme Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, toi tu peux dire aussi que la lumière soit et que la lumière soit dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Aucune obscurité dans ma vie, aucun manque dans ma vie, aucun malheur dans ma vie. Aucune défaite dans ma vie. Les rois sont des vainqueurs. Les rois ne sont pas des défaitistes. Donc, c'est pour ça que Paul nous appelle, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes ceux que Christ fait toujours triompher. Et qui a triomphé du monde? C'est notre foi en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que tout est possible à celui qui croit. Si seulement tu crois. Oh Seigneur, si tu t'es venu à temps, Lazare ne serait pas mort. Oh Seigneur, il va ressusciter le dernier jour. Non, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi ne peut pas mourir. Et la dernière fois que j'ai vu le docteur Miles Monroe prêcher, il a dit, je ne peux pas mourir. Les gens qui sont en Christ ne meurent pas. Donc quand on dit il est mort, là, il n'est pas mort. Il vit. En Jésus-Christ. Et hier, au cours biblique, je leur disais, mais vous savez, ça fait combien de temps que ce monsieur est au ciel? Vous, ici, vous dites, ça fait 2 semaines. Lui, ça fait pas 14 jours, 2 semaines. Parce que la Bible nous révèle qu'un jour au ciel, c'est l'équivalent de 1000 ans. Parce que nous, là, nous vivons dans ce qu'on appelle le temps. Il y a un commencement et il y a une fin. L'éternité n'a pas de commencement et pas de fin. Ton séjour sur la terre est une interruption de l'éternité. Tu fais ce que tu as à faire sur la terre et tu repars dans l'éternité. Pendant que nous, ça fait 14 jours que les gens sont en train de parler de 100 cas, lui, ça fait 14 multiplié par 1000 ans. 14 000 ans. Donc si les gens qui nous laissent l'avenir se révéler à nous, on les verrait dans un état tellement glorieux qu'on dirait, hey, mais mon Dieu, c'est là-bas qu'il faut être. auprès de Dieu. C'est pour ça que Paul dit dans Corinthiens, j'ai envie de partir, mais je reste avec vous. Parce que là-bas, je sais que je serai mieux. Mais je reste à cause de vous parce que vous n'êtes pas encore mature spirituellement. Grandissez. Oh. Et pour ça, je vous laisse. Dis avec moi, mon héritage est disponible. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On va incliner la tête. Je voudrais que tu puisses te remettre en question et que tu pries. Tu dis, aujourd'hui nous avons fait une introduction du sujet. Il y a encore tellement de choses à dire sur le sujet. Ne vous laissez pas transformer, ne vous laissez pas couler par le siècle présent, mais laissez-vous transformer dans votre intelligence. Je voudrais que tu pries et que tu dises, Seigneur, si vraiment il y a un héritage disponible pour moi, alors accorde-moi la grâce de le vivre sur la terre. C'en est fini de la vie, de la marche chrétienne, où toujours on est dans le manque, où toujours on est dans la difficulté. Maintenant, je me lève en Jésus-Christ et je prends possession de mon héritage en Christ. Je me mobilise dans la prière et je commence à prononcer, à déclarer des paroles de foi. Je commence à poser des actes de foi. Je crois par ta grâce que jamais je ne manquerai de rien sur la terre. Jamais je ne serai malheureux sur la terre. Jamais je ne souffrirai sur la terre. Et si tu permets la souffrance dans ma vie, c'est parce que tout simplement tu veux m'enseigner quelque chose, Seigneur, pour édifier mon caractère. Je te dis merci, Père. Merci pour la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence au simple, Seigneur. Jamais, Seigneur, je ne serai dans le manque. C'est pour ça que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il me fait marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Oui, Seigneur. Ton bâton me protège, ta houlette me conduit. Tu vois ma tête d'huile et ma coupe déborde. Seigneur, notre coupe déborde de joie, notre coupe déborde d'assurance, notre coupe déborde de paix, parce que tout simplement, Seigneur, l'héritage que tu as pour nous est disponible et nous le prenons, nous le saisissons dans le nom de Jésus-Christ. Plus de manque dans notre foyer, plus de manque dans nos maisons, plus de péché dans nos couples, plus de péché dans nos foyers, dans le nom de Jésus-Christ. Tout mensonge du diable est exposé dans notre vie. Seigneur, nous sommes libres parce que tu as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je suis libre en Christ, libre dans ma chair, libre dans mon corps, libre dans mon âme, libre dans mon esprit, libre de marcher avec Christ, libre de me réjouir dans la parole, libre de me réjouir dans le royaume. Le royaume m'est échu, un bel héritage m'est accordé. Voilà pourquoi, Père de grâce, je te dis merci pour cet héritage que nous avons en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Père. Plus de maladies. Et s'il y a une maladie qui vient frapper à ma porte, je proclame la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Plus de manque financier, je déclare la prospérité et l'abondance dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Plus de troubles ou de perturbations dans mon âme, je déclare la paix dans mon âme dans le nom de Jésus-Christ. Je sèche mes larmes, je sèche toutes mes larmes et je me réjouis dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es au contrôle de ma vie, parce que tu as pour moi un héritage, parce que je suis fils du Dieu vivant, fils du roi des rois, fils du Seigneur des seigneurs. Oh Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu pour les promesses qui sont contenues dans notre héritage en Jésus-Christ. Béni sois-tu pour la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence au simple. Béni sois-tu pour la paix, pour la joie, pour la grâce, l'abondance. Car l'héritage est disponible et nous pouvons entrer en possession de cet héritage par la foi. Et nous le recevons par la grâce. Tout est grâce dans le royaume de Dieu. Tout est grâce. Il n'y a rien qui est le fruit de nos efforts. Tout est grâce. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quel que soit le manque, tout est disponible par la grâce. Élève simplement tes mains vers Dieu et dis simplement, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tout est disponible par la grâce. Ma vie est assurée par la grâce. Ma paix, ma joie est assurée par la grâce de Dieu. Ma santé est assurée par la grâce. Il y a dans le panier de notre héritage une promesse qui s'appelle la santé divine. La santé divine fait partie de notre héritage. Alors aucune maladie n'a de place dans ta vie. Il y a dans notre héritage une promesse qui s'appelle l'abondance. Alors le manque ne fait pas partie de ton héritage au nom de Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu traverses une situation de manque, je déclare au nom de Jésus-Christ que aujourd'hui tu ne connais pas plus jamais le manque. Au nom de Jésus. Si aujourd'hui tu as une maladie, je déclare au nom de Jésus-Christ que aujourd'hui tu expérimentes la guérison au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie dans ta vie, aucune maladie dans ton corps, aucune maladie dans ta maison, aucune maladie, quel que soit son nom, le cancer, il est séché et brisé dans le nom de Jésus-Christ. Le sida, il est séché et brisé dans le nom de Jésus-Christ. Aucune déficience mentale, aucune déficience dans ton corps, aucune déficience dans ton sein, aucune déficience dans ton parent, aucune déficience en toi. Tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Parce que dans ton héritage, il y a quelque chose qui s'appelle la santé divine. Oh Seigneur, merci Père. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déposé, Seigneur, dans notre héritage. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Notre héritage s'appelle le royaume. Et dans notre royaume, il y a tout. Tout est une question de maturité spirituelle et de foi. Si tu as suffisamment la foi et la maturité qu'il faut, alors tu expérimenteras expérimenteras les promesses que Christ a accomplies à la croix pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour les promesses. Merci pour la grâce. Voilà pourquoi Paul a dit, je prêcherai le royaume et la grâce. La grâce veut simplement dire que par notre statut de fils, nous entrons dans la présence de notre Père et nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour prendre possession de ce qui est à lui. Ce qui est à notre Père est à nous. Et je n'ai pas besoin de demander, je n'ai pas besoin de prier ou de jeûner pour quoi que ce soit, parce que tout simplement, Dieu a mis à ma disposition tout ce dont j'ai besoin. Oui, il y a des situations où on peut être appelé à prier et à jeûner, oui. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre que l'héritage est disponible, Père. À toi soit toute la gloire, à toi soit la louange, Père, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci encore pour cette parole. Merci parce que tu nous amènes de gloire en gloire tout au long de ces semaines. Voici la fin de cette année, Seigneur, qui a sonné. Merci parce que tu amènes chacun à faire le bilan sur son année et à entrer dans l'année 2015, dans cette nouvelle saison de la vie, Seigneur, en vainqueur, plus que vainqueur. Et que cette nouvelle saison, Seigneur, de la vie soit pour nous, Seigneur, une saison où tous les projets que tu as formés pour nous, ils s'accompliront au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as commencée en nous. Merci pour la maison du bâtisseur, pour cette église que tu as suscitée dans cette génération et dans ce pays, le Gabon. Parce que tu as quelque chose à faire dans ce pays, Seigneur. Tu es venu pour libérer les mentalités, libérer, Seigneur, les foyers, briser les jougs, restaurer les couples, Seigneur, dans cette nation, au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, tout plan que l'ennemi, Seigneur, a fait pour détruire cette nation, il n'aboutira pas dans le nom de Jésus-Christ. Les hommes et les femmes prospéreront et témoigneront de la gloire de Dieu dans cette nation, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, à toi soit toute la gloire et la louange. Béni sois-tu, Père, pour ton héritage, Seigneur. Au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.